VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans l'explosion d'un véhicule piégé près d'un point de contrôle situé sur la route d'accès à l'aéroport de Mogadiscio. Des témoins ont confirmé avoir vu plusieurs corps sans pouvoir dire si les victimes étaient mortes ou seulement blessées. En France, un homme soupçonné d'être l'auteur de l'agression qui a tué Mamoudou Barry, un enseignant-chercheur guinéen près de Rouen, le suspect de nationalité turc, selon des sources policières, né en 1990, a été interpellé ce matin dans la ville de Rouen et a des antécédents psychiatriques. D'après un proche de la victime, le jeune chercheur de 31 ans, père de famille, a été pointé du doigt par son agresseur. Il aurait été la cible d'insultes racistes à la hauteur d'un arrêt de bus alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec son épouse. L'agresseur l'a frappé à coups de poing et de bouteille. D'après le témoin, cette agression a suscité dimanche une cascade de réactions politiques. Au Burkina Faso, le premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré a évoqué avec deux confrères de la presse locale divers sujets d'intérêt national. Notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon, nous résume ce face-à-face.
C'est un premier ministre globalement à l'aise qui s'est exprimé une heure durant sur plusieurs dossiers dominés par l'insécurité, la cohésion sociale et les questions de gouvernance d'une manière générale. Questionné sur l'affaire des 11 détenus décédés à l'unité antidrogue de la police nationale, le premier ministre a promis l'accompagnement des familles des victimes en attendant la fin des enquêtes. Christophe Dabiré qui a insisté côté sécurité sur l'importance du G5 Sahel dans le dispositif de riposte aux terroristes avant de botter en touche sur la sortie du ministre burkinabé de la Défense qui dénonçait la duplicité supposée de la France dans la lutte contre les djihadistes, mais aussi des propos du général français Lecointre qui lie la survie des pays du Sahel à la force Barkhane. Concernant la corruption, le Premier ministre a promis de renforcer les capacités de l'autorité supérieure de contrôle d'État pour la rendre plus efficace. Il s'est voulu aussi pédagogique sur la réduction du train de vie de l'État avant d'insister sur l'importance du dialogue pour résoudre les crises avec les partenaires sociaux. Christophe Dabiré a salué la participation de l'opposition au dialogue politique national dont tous attendent beaucoup afin de résoudre les grandes questions qui secouent le pays. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les autorités de la capitale de la République démocratique du Congo ont interdit l'organisation cette semaine de toute marche politique à Kinshasa à cause du climat tendu entre les partisans du président Félix Tshisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila, a annoncé dimanche la police. Le chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a fait savoir à la télévision nationale qu'il a instruit la police de prendre des mesures idoines. Toute personne qui osera marcher ou troubler l'ordre public pendant cette semaine va trouver la police sur son chemin. Au Congo-Brazzaville, voisin, après l'accord de 448 millions de dollars conclu avec le Fonds monétaire international pour sauver l'économie du pays, le gouvernement et les acteurs de l'opposition ne cessent de se contredire sur les capacités des autorités à appliquer les 48 mesures fixées par le FMI. Le premier ministre Clément Mwamba affirme que l'accord est parfaitement maîtrisable, alors que l'opposant Mathias Dezon voit un échec de ce programme dès la fin de cette année. À Brazzaville, retrouvons notre correspondant Arsène Séverin.
Depuis la sortie médiatique du Premier ministre sur l'accord que le Congo a conclu avec le Fonds monétaire international, beaucoup de salive coule. Clément Mwamba indique que cette aide ne sauvera certes pas le Congo, mais elle est nécessaire pour la relance de l'économie, mais surtout pour la bonne gouvernance.
C'est un bon programme, on n'a pas à en avoir honte. Mais le programme, il est exigeant. Parce que ces 48 mesures à mettre en œuvre, elles sont parfaitement maîtrisables par le gouvernement. Mais c'est une nouvelle cadence, une nouvelle organisation qu'il faut autour de cela. Donc il va falloir que partout, quand vous avez l'argent public, s'impose un certain nombre de règles dans son utilisation. C'est comme ça que nous allons conduire le programme.
L'accord est bon. Il ne devrait pas créer une tension sociale comme par le passé, selon Claude Martial Mbon, un observateur de la vie économique.
Aujourd'hui, ce ne sont pas des programmes d'ajustement structurel où on venait avec trop d'austérité. C'est vrai, on réduisait le train de vie de l'État. On ne recrutait plus dans la fonction publique. Et même ceux qui étaient dans la fonction publique n'avaient plus d'avancement et d'effets financiers. Mais aujourd'hui, avec le FMI, ce n'est plus le même programme. Et même le remboursement, c'est un prêt à taux zéro. C'est une bonne chose.
Flirtant avec les fins limiers de la finance congolaise, l'analyste économique Alphonse Ndongo estime que le Congo a du potentiel pour exécuter les 48 mesures fixées par le FMI, mais à condition que les autorités payent le prix du renouvellement.
L'essentiel de ces mesures pourrait être appliqué à très court terme. Maintenant, il faut pour cela un gouvernement de combat. Pour l'instant, le gouvernement gouvernement est un gouvernement politique. Il sort d'une situation assez trouble que nous avons connue au sortir de la présidentielle de 2016. Le combat, tout le monde le sait, est économique.
Pour Mathias Nzon, ancien ministre des Finances et aujourd'hui leader de l'opposition, il faut attendre la toute première revue du FMI en décembre prochain pour savoir si le Congo achèvera son programme avec le FMI en mars 2022.
Attendez, d'ici le 31 décembre, la première revue, au bout de 6 mois, vous allez voir, ça sera donc un cré rouge. Puisque, mais bien sûr, on n'aura ni reconstitué les réserves de change, on n'aura ni retraité la dette, on n'aura pas rapatrié les recettes d'exportation. On n'aura pas clôturé les comptes d'enfants à l'extérieur pour rapatrier l'argent au Congo. On n'aura pas utilisé les canaux officiels pour payer les salaires des Congolais. C'est toujours les canaux pisalés, aller au système des vendeurs à la rigueur dans notre pays.
Selon cet accord conclu le 11 juillet dernier, le Congo percevra une mise à bouche de 25 milliards de francs CFA avant d'encaisser sa toute première tranche, celle-là fixée à 49 milliards. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Le ministre kényan des Finances, Henri Rotich, et plusieurs responsables de son ministère ont été arrêtés aujourd'hui pour corruption et fraude en lien avec un projet de construction de 2 barrages d'une valeur de plusieurs millions de dollars, a annoncé la police. Ils sont en détention et attendent d'être emmenés devant un tribunal, a déclaré à l'AFP le chef de la police kényane, George Kinoti, ajoutant que les accusés s'étaient présentés d'eux-mêmes après que le directeur des poursuites publiques, Nordin Hadji, eut un peu plus tôt demandé leur arrestation. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé dimanche comme irrévocablement biaisé le rapport de la médiatrice de la République sud-africaine qui a affirmé qu'il avait délibérément trompé le Parlement. La médiatrice, une juriste indépendante chargée de contrôler notamment les agissements de l'exécutif, estime que le président a trompé le Parlement de façon délibérée quand il a répondu à une question de l'opposition sur une donation à sa campagne de 500 000 rands, environ 32 000 euros, faite par un groupe industriel. Monsieur Ramaphosa avait plaidé la bonne foi, assurant qu'il ne disposait pas de bonnes informations lorsqu'il avait répondu à la question au Parlement. Il a promis donc de rembourser les fonds de campagne.
Nos infos sur voaafrique.com.
À Hong Kong, une nouvelle manifestation anti-Pékin a dégénéré en fin de journée hier. La police a tiré à balles en caoutchouc. Yakuba Ouedraogo.
Pour le 7e week-end d'affilée, les manifestants anti-gouvernementaux ont défilé dans les rues de Hong Kong. Selon les organisateurs, près de 430 000 personnes ont participé à la marche de dimanche. La manifestation a débordé jusqu'au bureau de liaison chinois représentant le gouvernement de Pékin sur lequel les protestataires ont jeté des œufs et inscrit des graffitis. Dans la soirée, la police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et tiré des balles en caoutchouc pour disperser des groupes de protestataires. Depuis le 9 juin, Hong Kong est le théâtre de manifestations contre le gouvernement local pro-Pékin, marqué souvent par des affrontements entre des contestataires radicaux et la police. Le mouvement est parti d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. La contestation s'est élargie à des exigences plus vastes concernant la préservation des acquis démocratiques et des libertés, en particulier l'indépendance de la justice.
Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AEA, Yukiya Amano, est décédé à 72 ans, a annoncé aujourd'hui l'AEA qui va devoir se doter d'un nouveau patron en pleine escalade des tensions autour du dossier nucléaire iranien. Le diplomate japonais dirigeait depuis 10 ans l'agence, chargé notamment du suivi des engagements de l'Iran au titre de l'accord nucléaire de 2015. Et 17 Iraniens ont été arrêtés entre mars 2018 et mars 2019 dans le cadre du démantèlement d'un réseau d'espions de la CIA et plusieurs d'entre eux ont été condamnés à mort, ont annoncé aujourd'hui les autorités iraniennes. Le démantèlement d'un réseau d'espions agissant pour le compte des États-Unis avait été annoncé par Téhéran le 18 juin dernier. Cette annonce intervient dans un contexte explosif entre l'Iran et les États-Unis, un an après le retrait américain de l'accord international sur le nucléaire iranien et au moment où les tensions s'aggravent chaque jour un peu plus dans le Golfe. Et puis, les Ukrainiens ont donné carte blanche du moins à leur nouveau président, Volodymyr Zelensky, son parti remportant à lui seul la majorité absolue au Parlement lors des législatives anticipées de dimanche, selon les projections des médias ukrainiens. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Bon après-midi à tous. Nous sommes le lundi 22 juillet 2019.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.